Donc, je suis Miklos Santa et je vais parler du problème de sous-groupe caché. Donc, c'est un séminaire ou un TD, si vous voulez, un peu solitaire, mais j'espère qu'on s'en sortira. Je commence donc immédiatement avec la définition. Donc, le problème de sous-groupe caché, c'est un problème paradigmatique en informatique quantique. On a à notre disposition un groupe, un sous-ensemble, une famille de sous-groupes, H de groupe G, et puis on a comme entrée une fonction qui envoie le groupe dans un ensemble abstrait dont on ne connaît pas les propriétés. Vous pouvez imaginer que S, c'est les couleurs. Et par contre, on a une promesse, et la promesse, c'est que cette fonction cache un sous-groupe H de la famille qui est donnée comme entrée. Et cela veut dire que si vous regardez, oui, je pense que voici le sous-groupe, voici les cosettes. Alors, cette fonction est constante sur le sous-groupe, est constante sur n'importe quelle cosette, mais prend des valeurs distinctes sur des cosettes distinctes. OK? Et à la sortie, vous devez trouver ce sous-groupe. Donc, disons que vous pouvez donner le générateur pour H. Alors, parlons un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire comme entrée avoir une fonction. Donc, abstraitement, cette fonction est donnée comme une oracle, ce qui veut dire qu'en un seul pas, vous pouvez présenter une entrée comme un élément de groupe et vous allez obtenir la valeur de la fonction f sur cet élément de groupe. Dans le meilleur des cas, bien sûr, cet oracle peut être substitué par une vraie fonction qu'on sait calculer ou un circuit. C'est ce qui est le cas, par exemple, dans la factorisation de Shor. Mais les algorithmes que je vais décrire marchent aussi tout abstraitement. Maintenant, quelle est la taille de ce problème? Donc, la taille de ce problème, c'est la taille de la description de groupe. Et il y a bien sûr plusieurs façons de décrire un groupe, mais disons que si on décrit le groupe par générateur, alors un nombre logarithmique d'éléments de groupe engendre le générateur. Et donc, on va prendre comme taille du problème le logarithme de taille de G. Et donc, quand je parle d'un algorithme efficace ou polynomial, ça veut dire que c'est polynomial en logarithme de taille de groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps, où je compte chaque pas. Et par contre, si on ne compte que le nombre d'appels à l'ordre, c'est ce qu'on appellera le nombre de requêtes. Évidemment, la complexité en requêtes est toujours plus petit ou égal que la complexité en temps. Alors, bon, Frédéric, tout à l'heure, on a parlé. Donc, le succès de ce problème, c'est que certaines instances très importantes y appartiennent, et en particulier Shor, qui a peut-être la première fois formulé le problème PSC comme tel, donc a démontré que dans les groupes abéliens finis, il y a un algorithme quantique polynomial, et comme cas spécifique, il a identifié le logarithme discret et puis la factorisation. Alors, il y avait bien sûr énormément d'extensions de ce problème à partir des groupes abéliens infinis, extensions pour des groupes infinis comme R ou R puissance n, extensions à certains groupes non abéliens, extensions aussi aux ensembles algébriques aussi cachés, mais de degré supérieur si on considère que le sous-groupe, c'est un problème linéaire. Évidemment, je n'aurai pas de temps de parler de tout ça. Donc, enfin, le premier point, je viens de terminer, j'ai juste défini le problème de sous-groupe caché. Je vais parler maintenant du cas des groupes abéliens. Surtout fini, je parlerai très peu des groupes infinis. Après, je vais revoir, Frédéric a déjà fait, mais je vais revoir certaines conséquences en cryptographie post-quantique. Puis, on va parler des groupes non abéliens. Je vais considérer en particulier deux groupes non abéliens, le groupe dihédral et puis une certaine généralisation du groupe dihédral. Alors, on commence avec les abéliens finis. Donc, je dois parler des caractères. Donc, si j'ai un groupe G, un caractère, c'est un homomorphisme qui envoie le groupe dans les complexes non zéro, et en réalité, ça veut dire dans des complexes de module 1. Donc, qui de X, pour chaque élément X du groupe, c'est une racine G, M, disons, cardinal G, disons que c'est N, donc racine N, M de l'unité. Et il s'avère qu'il y a autant de caractères que d'éléments de groupe, et en fait, il forme aussi un groupe, et ces deux groupes sont isomorphes. Donc, je vais fixer un isomorphisme qui y, donc c'est le caractère, disons, correspondant à y. Et pour vous donner deux exemples, si le groupe, c'est les entiers modulo Q, alors le caractère Y en point X prend donc une fois pour toute la racine QM de l'unité primitive et élève sur le X fois Y qui est en puissance. Puis si j'ai deux groupes abéliens dans lesquels on a déjà défini les caractères, alors la définition en groupe produit, c'est tout simplement, vous considérez Y et X comme des couples YN, Y de X en X2, prenez les valeurs dans les groupes respectifs et vous les multipliez. Alors une fois vous avez les caractères dans les groupes cycliques et puis dans, vous savez comment former des groupes produits, vous savez comment définir les caractères dans les groupes abéliens. Alors, pour moi, ce qui serait important, c'est que si j'ai un sous-groupe H de G, je vais définir le sous-groupe orthogonal de H comme l'ensemble des Y, tel que le YM caractère envoie n'importe quel élément de sous-groupe H en N, en plus N. Et le théorème qu'on utilise sans arrêt, c'est que si H c'est un sous-groupe de G, alors il existe un algorithme déterministe qui calcule H à partir de H orthogonal. Donc, si vous avez H orthogonal, c'est la même chose que d'avoir H parce que rapidement, classiquement, vous pouvez obtenir. Alors, quelle est la transforme de Fourier quantique dans un groupe quelconque? Donc, je considère l'espace Hilbert engendré par les éléments du groupe. Donc, s'il y a N éléments dans le groupe, c'est C puissance N. Puis il y a deux bases, le Dirac, c'est la base de calcul, si vous voulez, dont les éléments sont juste les 4x, qui est donc les vecteurs, qui est N en coordonnées x, puis partout à 0. Et puis il y a les caractères, qui de y, où qui de y, c'est la somme pour tout x, 4x, avec amplitude qui y de x, c'est pas normalisé. Si je le normalise, il faut multiplier par 1 sur racine de y, alors la transformée de Fourier quantique sur le groupe G, c'est rien d'autre qu'une transformation de base de Dirac vers les bases de caractères. Et pourquoi j'ai défini tout à l'heure l'orthogonal d'un sous-groupe, parce qu'on a la propriété très agréable de TFQ, c'est que si j'ai donc un sous-groupe, vous pouvez penser au sous-groupe caché, et puis un élément quelconque de groupe, alors je peux considérer le coset de H, c'est donc des X plus H, c'est les superpositions uniformes sur tous les éléments de la forme X plus H, sur H parcours le sous-groupe. Et si je prends cette superposition uniforme, la transformée de Fourier l'a envoyée dans une variante de groupe orthogonal, variante selon X. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez tout à fait ici une superposition uniforme sur le groupe orthogonal, sauf que chaque Y prend une amplitude qui Y de X, où X est la valeur spécifiée à l'origine. Et donc le TFQ envoie un coset dans cette variante de sous-groupe orthogonal. Alors pourquoi c'est très agréable? Vous pouvez un petit peu imaginer que, en fait, vous voulez savoir connaître H. Donc idéalement, vous voudriez avoir un état quantique que vous mesurez et vous tombez sur un élément de H. On verra ce qu'on peut faire, c'est engendrer un état quantique style X plus H. Malheureusement, si vous mesurez, il y a cette perturbance que vous allez mesurer un élément du coset. Par contre, si vous regardez le résultat de TFQ, alors là, vous avez aussi une perturbance, mais c'est une perturbance multiplicative. Et donc, quand vous mesurez, finalement, vous mesurez un élément quelconque de H orthogonal ou la variante selon cette perturbance X, c'est la même chose parce qu'une amplitude de valeur N, ça ne change rien. Bon, donc, le théorème que je vais prouver, mais Frédéric a essentiellement montré, c'est qu'on sait calculer en temps polynomial dans un groupe fini et abélien. Alors voilà ce qu'on appelle la solution standard, et vous avez déjà vu ça plusieurs fois pour Shor et pour Simons. Donc voilà ce qui se passe. Donc je travaille sur deux registres, un prend des éléments du groupe, l'autre dans l'ensemble de fonction en F qui cache le sous-groupe en bois des éléments de J. D'abord, je fais un TFQ sur le premier registre, donc j'obtiens la superposition uniforme dans le premier registre. Après, j'ai fait une requête, donc je mets F de X dans le deuxième registre. Après, je mesure le deuxième registre. Je vais obtenir une certaine valeur aléatoire F de A, mais comme résultat, le premier registre se collapse sur la superposition uniforme du coset A plus H. Je refais la transformation Fourier sur le premier registre et donc j'obtiens un élément de H orthogonal perturbé par A. Mais quand je mesure, j'ai juste un élément uniforme de H orthogonal. Et donc, comme on a vu, avoir H orthogonal, c'est aussi bon qu'avoir H. Et donc, on a pu déterminer le sous-groupe caché. Alors, cet algorithme est tellement standard que vraiment, presque toujours, on fait ça. Et dans ce sens, on peut aussi dire que l'entrée, ce n'est pas vraiment la fonction F, mais l'entrée, c'est là où je suis ici. C'est une superposition uniforme sur un coset aléatoire. Donc, souvent, on dit que ça, c'est l'entrée. Évidemment, si vous savez résoudre vos problèmes avec cette entrée style et à coset aléatoire, vous pouvez aussi faire selon quand c'est l'entrée, c'est donné comme la fonction. Et vous allez voir que je vais, de temps en temps, dans l'exposé, prendre cette façon de spécifier. Alors, juste pour voir clairement, donc, comment Simons choisit cas particulier. Donc, dans le cas de Simons, on avait le groupe 0 n puissance 1, le suivi binaire addition par coordonnées mode 2, et puis le sous-groupe caché, c'était bien sûr l'élément neutre, et puis ns, une suivi binaire quelconque de longueur n. Et la fonction cachée, la fonction qui cache ce sous-groupe est telle que f de x est f de y, s'il y a seulement, si bien sûr, x égale y, ou x égale y plus s, x plus y égale s. Les caractères x, disons que le caractère qui y envoie x en moins 1 puissance x fois y, où c'est le produit scalaire mode 2, et le h orthogonal, le groupe du sous-groupe duquel on échantillonne à la fin, ce sont les Y qui sont orthogonaux à S. Autrement dit, on obtient des équations linéaires. Et évidemment, si vous avez un nombre suffisamment d'équations linéaires pour les N inconnus qui sont Sn, S2, etc., Sn, ben, nombre, disons, au bout de 3N générations aléatoires, vous avez un système qui, avec très grande probabilité, détermine S. Alors, deuxième. À propos de Shor, il y a toujours cette petite hésitation que la vérité, que la fonction que Shor considère, c'est une fonction qui n'est pas périodique sur un groupe fini, mais périodique sur Z, n'est-ce pas? Donc, l'entrée, si vous voulez, c'est N, c'est ce qu'on a envie de factoriser, et puis N entier A quelconque, aléatoire, et on cherche l'ordre A modulo N. Donc, si c'est R, alors, bien sûr, 0R, 2R, etc., c'est un sous-groupe de Z et la fonction est périodique selon ce sous-groupe. Puis l'astuce de Shor de ne pas parler de groupe infini, c'est de remplacer Z, ce groupe, par un sous-groupe suffisamment grand, ZQ, et suffisamment grand veut dire à peu près 1 carré. Et donc la fonction qui maintenant restreinte à ZQF envoie, comme la fonction originale, XA à puissance X mod N. Et évidemment, ce n'est pas forcément un sous-groupe, c'est un sous-groupe seulement si R divise. Oups, quelque chose est passé. Si R divise Q. Pour simplifier la vie, supposons que c'est le cas, et dans ce cas-là, effectivement, un sous-groupe, le caractère, disons, qui C envoie n'importe quel élément X en Qm racine de l'unité puissance Cx. Alors, quand est-ce que j'ai, pour un R, que c'est Q, qui C de R égale 1, ben, c'est si et seulement si Q divise C fois R, donc Q sur R, divisé. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est des échantillons de groupes qui sont les multiples de Q sur R. Donc, autrement dit, si vous avez 15, une façon de voir le sous-groupe, c'est disons, des entiers multiples de 3, le sous-groupe orthogonal, c'est un multiple de 5. Ma foi, si quelqu'un vous donne 3 versus 5 pour factoriser 15, c'est la même chose. OK. Alors, c'est un petit peu pour votre amusement en partie. Donc, revenons en cryptographie. Donc, Frédéric, on a longtemps parlé que plein de problèmes pour les systèmes classiques de système à clé public. Donc, tous ceux dont la difficulté est basée sur la difficulté justement d'un problème de sous-groupe caché. Plein de systèmes comme RSA, Diffie-Hellman, etc., sont cassés quantiquement. L'importante chose que je voudrais souligner est que toutes les variantes des courbes elliptiques de ces systèmes sont aussi cassées parce que les courbes elliptiques sont des groupes abéliens. Et actuellement, pas mal de systèmes utilisent justement des problèmes basés sur les groupes elliptiques. Alors, pour les amusements, voilà une histoire d'un certain système de chiffrement soliloquique qui a été fait dans le GCH, qui est, disons, le correspondant de NSA américaine, ou en France, je pense que le GDSA, si je ne me trompe pas. Et ils ont construit un système en 2007, après ils ont abandonné, ils ont écrit un article en disant qu'ils abandonnent parce qu'ils ont trouvé un algorithme quantique qui casse et ils considèrent que ça ne va pas bien. Et surtout, j'aime bien cette dernière phase, ils disent très clairement qu'ils sentent que justement ce problème qu'on considère aujourd'hui peut avoir une application beaucoup, beaucoup plus large qu'on l'a imaginé. Et donc, chaque système doit être analysé très fortement aussi sous cet œil. Alors, voici le NSA qui, donc, depuis des décades, envoie des guidance au gouvernement, aux différents agents de gouvernement. Alors, actuellement, ils utilisent, comme s'appelle, le Suite B, c'est des systèmes cryptographiques dont la difficulté est basée sur les algorithmes dans les groupes elliptiques. Et c'est la suite B. Est-ce qu'ils disent ici que si un agent n'a pas encore le système B, ça ne vaut pas la peine qu'il l'installe, vaut mieux attendre. Et quand ça arrivera, prochainement, espérons, il va devoir l'agent installer un suite C algorithme qui sera donc justement résistant aux algorithmes quantiques. Et puis, Frédéric a parlé de cet appel à proposition des systèmes cryptographiques post-quantiques de 2016. L'appel n'a toujours... Il y a beaucoup, beaucoup de stades. Il y a encore, peut-être une dizaine d'applications qui sont concernées. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ce paragraphe qui dit assez d'une façon amusante que il n'y a pas si longtemps, et c'était même pas clair qu'on a la possibilité de vraiment construire un ordinateur quantique. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on faisait souvent des exposés qui se terminaient, que peut-être le plus intéressant était si on pouvait découvrir un certain principe de la nature qui interdit la construction d'un ordinateur quantique. Alors ici, il dit que non, il n'y a pas tel principe. En réalité, ce n'est même plus un problème scientifique, c'est un pur problème d'engineering. Bon, enfin, en vue que c'est de plus en plus des grandes boîtes industrielles privées qui construisent, en tout cas, les premiers prototypes de l'ordinateur quantique, peut-être que le NIST avait raison. Alors voilà, Frédéric en a aussi parlé, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions pour la cryptographie post-quantique. Certaines de ces propositions datent il y a bien longtemps. Je veux surtout parler ici des réseaux parce que c'est peut-être le plus répandu. C'est quoi un réseau? Donc un réseau, c'est un sous-groupe discret de R puissance m pour un certain entier. Ou bien, c'est une définition équivalente, vous prenez K vecteur en R puissance m, K c'est O plus m, et vous prenez n'importe quelle combinaison linéaire entière de ces vecteurs. Donc voici, j'ai deux vecteurs, ce sont des deux. Si vous prenez toutes les combinaisons linéaires, vous avez ces points. Donc ça, c'est un réseau. Alors, les problèmes, il y en a beaucoup qu'on considère, donc deux problèmes rapidement. C'est le vecteur le ou les plus courts. Donc, On aurait envie d'avoir une base, n'est-ce pas, agréable, ce qu'on voit ici, qui prend donc les vecteurs courts dans ce réseau. Mais malheureusement, possible qu'on nous a donné deux vecteurs très longs. Et donc, la tâche, c'est à partir de ces deux vecteurs bleus, retrouver une base qui donc engendre le même réseau qui a les vecteurs le plus court du réseau. Et puis, le vecteur le plus proche, donc c'est pareil, vous avez une base pour le réseau et on vous donne un point rouge en dehors du réseau. Et vous devez trouver le point le plus proche du réseau de ce point rouge. Okay? Et puis, il y a plein de variantes. Vous allez voir, ici, il y a des variantes où il y a une promesse sur la distance de ce point rouge du réseau, etc. Alors, c'est juste une remarque qui est peut-être assez quand même importante. Tout le monde qui s'occupe de crypto sait que ce n'est pas les problèmes MP complets sur lesquels on base les cryptosystèmes, mais c'est plutôt les problèmes qui sont difficiles en moyenne. Et donc, un des aspects très, très, très attractifs des réseaux, c'est un théorème de Haithai d'il y a 25 ans, qui montre que dans la réduction des réseaux, certains problèmes sont aussi difficiles en moyenne qu'en pire cas. Donc, ça veut dire que si quelqu'un casse le système, non seulement casse en moyenne, mais même là, cas le pire, et donc ça vous donne une certaine confiance supplémentaire. Alors, très rapidement, quelques mots sur les groupes abéliens infinis. Donc, disons que la généralisation de sous-groupes cachés pour R puissance M. Alors, il y avait deux grandes classes de méthodes. Donc, le premier qui faisait vraiment des approximations discrétisées, c'est un petit peu comme Shor faisait déjà, qui passait de ZM à un sous-groupe. Donc, ici, on commence avec R puissance M, et puis vous avez des fonctions périodiques. Ces périodes peuvent être méchantes, par exemple, de longueur irrationnel, mais vous avez quand même une façon de discrétiser votre problème et faire des calculs qui vous déterminent la période. Et donc, la grande typique de l'équation de Pell, mon transparent suivant parlera de ça, puis la généralisation de ça, qui était due à Hagren, par Hagren lui-même, et puis les deux allemands Schmitt et Folmer, à des coordonnées de degrés constantes supérieures. Pell, c'est une coordonnée de degrés 1. Et puis, une deuxième classe plus récente où c'est une PSC continue sur R puissance M. Et là, c'est un autre, un tout petit peu, déjà la définition, il y a un tout petit peu une nouvelle définition pour le sous-groupe caché qui est prend la continuité prendre la continuité de sous-groupe caché aussi en considération. Et donc, c'est de nouveau Hagren avec Eisentrick, Akita, FSong et puis BSSong qui pouvait donc généraliser les problèmes précédents dans les coordonnées de degrés arbitraires. Et par exemple, le résultat de BSSong détruisait aussi Soliloquy comme les Anglais. Donc, ça, c'est marrant. Et puis, d'autres applications existent aussi en cryptographie. Donc, juste une page sur Pell. Donc, l'équation de Pell, c'est une équation Diophantienne. Donc, on cherche des solutions entières de x carré moins dy carré égale à 1, où donc x et y sont des inconnus entiers. Et d, c'est un entier avec la propriété qu'il n'est pas divisible par aucun carré. Donc, pour n'importe quel premier P, P carré ne divise pas D. Et puis, comme on a X carré, Y carré, on va toujours supposer que X et Y sont supérieurs à 0. On appelle une solution fondamentale, X0, Y0, fondamentale, si c'est X0 plus racine de D fois Y0, qui vient justement de coordonnées, on a étendu Q avec racine de D, est le plus petit parmi toutes les solutions. Une manque ici, plus petite. Et puis, donc je vais dénoter cette solution plus petite par xi de d, qui est donc justement la valeur x0 plus y0 fois racine de D. Par exemple, quand D égale 2, le xi de D, c'est, il s'avère, c'est 3 plus 2 racine de 2, et vous pouvez voir, 3 carré, c'est 9, 2 fois 2 carré, c'est 8, 9 moins 8 égale 2. Alors, en fait, c'est que si vous avez la solution fondamentale, essentiellement, vous avez tout, parce que n'importe quelle solution s'écrit comme une certaine puissance entière de la solution fondamentale. C'est un théorème de Lagrange, je crois. Alors, maintenant, quels sont les problèmes? Le problème, c'est que non seulement que vous ne pouvez pas calculer ça rapidement en temps classique, mais vous ne pouvez même pas écrire la solution. Pourquoi? Parce que xi de D, ça peut être aussi grand que E puissance de l'ordre, disons, racine de D. Donc, juste d'écrire en binaire, disons que xi de D, ça prend à peu près racine de D, donc bit, mais votre problème, l'entrée, c'est D, donc la taille de D, c'est log D, et racine de D, bien sûr, c'est exponentielle à log D, donc temps polynomial, vous ne pouvez même pas écrire votre solution. Alors, pour venir en aide, on définit le régulateur, qui est donc essentiellement le logarithme de la solution, et on faut juste calculer donc, la partie entière de R de D, du régulateur. Classiquement, on ne sait pas faire en temps polynomial, on est polynomial. Seulement en deux, donc le temps nécessaire, c'est 2 puissance racine de D. Et donc l'algorithme de Hallgren, c'est, disons que deux parties trouvent une fonction sur R, dont la période est, enfin sur les réels, dont la période est le régulateur, qui peut être bien sûr irrationnel, et après il donne une solution quantique avec discrétisation intelligente, puis certaines idées qui déterminent donc en temps polynomial quantique. Bon, on passe au groupe non abélien. Donc, la première remarque, c'est que, en fait, si on regarde seulement la complexité des requêtes de PSC, le problème est simple. Vous avez le théorème de Ettinger, Hoyer et Knill, voilà, ça c'est aussi il y a longtemps. Donc, la complexité en requête, c'est polynomial en log taille de G. Alors, bon. Très, très, très en grande ligne, c'est quoi l'algorithme? Combien de sous-groupes y a-t-il en G? Ben, au plus, G choisit log de G, donc, parce que n'importe quel sous-groupe est engendré par au plus log de G élément. Donc, c'est à peu près 2 puissance log carré de G. Alors, ce qu'ils font, donc, Ettinger, Hoyer et Knill, c'est que ils énumèrent, bon, la première remarque, on prend tous les sous-groupes. Donc, il y en a à peu près autant de, donc R, c'est le nombre total des sous-groupes. Et évidemment, si vous êtes, disons, périodique selon H, et vous avez un H' qui est sous-groupe de H, vous êtes aussi périodique selon H'. Donc, on a envie de déterminer la période pour la plus grande sous-groupe, les plus grandes. Et donc, ce qu'ils font, ils numérotent les sous-groupes de telle façon qu'ils commencent avec les grandes cardinalités. Donc, si vous avez ici un KI et KJ, tel que KJ est sous-groupe de KI, alors vous énumérez KI avant de KJ. Alors, l'algorithme, c'est une suite de tests, exactement autant de tests que vous avez de sous-groupes. Et donc, que fait le test I? Donc, mon état initial, je prends une superposition uniforme, justement, de cet état qu'on a vu dans l'algorithme standard. Donc, je prends la superposition uniforme dans un registre, et puis je calcule f de x dans l'autre registre. Et je prends plein de copies de ça. Alors, le test I va tout simplement... Ben, regardez que est-ce que le période est K de I. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que ce K de I est le période. Alors, ce que j'ai ici, c'est une superposition des états des cosettes, n'est-ce pas? Et sinon, ce n'est pas le cas. Et donc, le test I, si c'est le cas, tout simplement, va signaler cela dans un premier registre. Et puis, si ce n'est pas le cas, il ne fait rien. Donc, autrement dit, vous faites une projection ici sur la superposition uniforme selon les cosettes de KIM sous-groupe, et vous marquez ça dans ce registre. Et puis, finalement, si vous êtes dans le complément orthogonal, donc vous projetez sur l'orthogonal, ben, vous ne faites rien du tout. Et donc, ce qu'il faut montrer, bien sûr, que quand vous ne faites rien du tout, évidemment, rien d'autre ne se passe. Autrement dit, ce qu'il faut montrer, que ces états de Cosette, supervision de Cosette, sont orthogonaux moralement quand je prends deux Cosettes différentes. Et donc, le fait, c'est que si F cache H, alors ce test va signaler avec cette probabilité qui vous donne à peu près quelle est la taille de S, à peu près pour les logarithmiques. Bon. Maintenant, on a vu l'algorithme standard était magnifique dans le cas abélien. Qu'est-ce que ça fait dans les cas non abélien? Alors, bien sûr, on peut essayer. Il y a un certain problème qu'on confrontera. La première chose, qu'il faut définir la transforme de Fourier, ce qui est certainement faisable. Mais après, il faut implémenter efficacement. Mettons que vous réussissez, alors... Et il faut voir que vous avez fait l'échantillonnage de Fourier. Est-ce que l'information que vous obtenez est suffisante ou pas pour déterminer le sous-groupe? Et si jamais c'est suffisante, qui n'est pas garanti du tout, alors il faut trouver un post-statement, que ce soit classique ou quantique, qui efficacement vous retrouve le orthogonal, disons, du groupe que vous cherchez. Ou le groupe, plutôt. Alors, la vérité que... il n'y a quand même pas beaucoup de cas où tous ces trois problèmes sont résolus. Je vous ai tout petit peu expliqué que quand est-ce qu'on a ci et ça, je vous donne un certain nombre d'exemples. Donc, voici la transformée de Fourier pour les groupes non abéliens. Donc, là, on entre un tout petit peu dans la représentation linéaire des groupes. Donc, d'un groupe G, une représentation linéaire sur C de N, c'est une homomorphie sigma qui envoie G dans des matrices N fois N complexes, invertibles, en fait des matrices unitaires. Et la dimension de cette représentation, c'est, je pourrais dénoter par D de sigma, c'est donc N, si vous obtenez comme image des matrices N fois N. La somme directe de deux représentations sigma et sigma prime, c'est que vous imaginez, si vous êtes sur deux espaces V et V prime, ça sera juste une représentation sur la somme directe de V et V prime, et la dimension sera donc D sigma plus D sigma prime. Alors, ce qui est très important comme définition, on va dire qu'une représentation est irréductible si elle n'a pas de sous-espace stable non trivial, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas décomposer sigma comme somme directe de, disons, sigma prime et sigma 2 prime. Alors, soit j'ai chapeau l'ensemble des représentations irréductibles, ce que nous avons, c'est le théorème sur les cardinalités, c'est que la somme sur les représentations irréductibles, le carré de leur dimension, c'est exactement la taille du groupe. Alors, juste pour voir, dans le cas abélien, on avait des représentations de dimension 1, c'était juste complexe, et donc fonction complexe, et donc on avait ce théorème correspond à dire que le nombre de l'espace des caractères est de même taille que l'espace des groupes. La transforme de Fourier, donc ce qu'il fait, c'est donc en bas C de G, comme le cas abélien. Alors ici, on prend le somme directe des caractères irréductibles, et puis pour chaque sigma, on va prendre l'espace de Cn carré, où n, c'est la dimension de sigma. Et sur un élément de G, c'est transformé en G dans une superposition uniforme que vous voyez ici. J'espère que les constantes de normalisation sont correctes. Vous avez des triplets, disons, trois registres, si vous préférez. Le premier, c'est sigma. On a une somme sur tous les caractères irréductibles. Et puis, pour chaque sigma, j'ai ici J et K, qui, si vous voulez, indice de ligne, indice de colonne dans la représentation, dans la matrice de dimension D sigma fois D sigma. Alors, il y a des cas où on peut implémenter ça efficacement. Par exemple, dans le groupe symétrique, par exemple, dans le groupe dihédral, il y a plein de groupes où on n'a pas d'implémentation efficace de transformée de Fourier. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on continue l'échantillonnage de Fourier? Donc, c'est l'analogue de mon transparent de tout au début. Donc, quelle sera l'image d'un cosette de H? Alors, il s'avère que ça sera donc bien sûr une superposition uniforme sur les caractères irréductibles. Et puis, donc vous avez ici sigma. Et puis, pour le deuxième caractère, vous prenez cette matrice, la somme des sigma AH, ou H bar pour le sigma. A, c'est un élément aléatoire. Et puis, vous avez l'indice de ligne, l'indice de colonne. Et c'est là l'amplitude de cet état. Et alors, on distingue d'habitude deux types d'échantillages. Dans le cas de Fourier faible, vous mesurez juste le sigma, donc le premier registre. Bon, vous avez une certaine probabilité. Et il s'avère que dans certains cas, cela est déjà suffisant. Bien sûr, les groupes, sous-groupes normaux, c'est normal, ce sont des sous-groupes un peu simples. Et il s'avère que c'est un théorème de Algernon-Seletash, m'a dit de 2000, que juste pour mesurer le caractère irréductible est suffisant pour déterminer le sous-groupe. Puis il y a l'échantillonnage de Fourier fort, où vous mesurez aussi les indices de la matrice. Et dans ce cas-là, bien sûr, vous avez un choix dans quelle base vous écrivez cette matrice. Et ce choix de matrice, ce n'est pas innocent, c'est assez important. Et par exemple, vous avez un théorème d'Ettinger-Hoyer que dans le groupe diédral, l'information que vous obtenez par le Fourier, l'échantillonnage de Fourier, c'est suffisante. Malheureusement, il n'y a pas de post-acton connu, même si cette information existe rapidement, il est donné sous une forme qui, en tout cas, selon les connaissances d'aujourd'hui, n'autorise pas un post-traitement efficace. Et puis, il y a des cas plus négatifs. Donc, par exemple, dans le groupe symétrique, l'information n'est pas suffisante. Bon, alors, un exemple un petit peu simple et quand même très intéressant, c'est le rapport de PSC à l'isomorphisme de Graaff. Donc, en fait, pour être bref, j'ai envie de montrer que le problème de l'isomorphisme de Graaff, c'est un problème de sous-groupe caché dans le groupe symétrique. Donc, si j'ai un graphe sur un sommet, j'ai une permutation de Sn, de n sur élément, n élément. Alors, je définis P de G comme le graphe sur un élément, mais où une arête Ij de E est passée en Pi de E, Pi de G, donc de Pi de E. Et puis, un automorphisme de G, c'est tout simplement les permutations qui ne change pas le groupe, donc pour lequel pi de g égale de graphe pi de g égale g. Donc si j'ai ce graphe, voilà ce graphe, pardon, 4 sommets, alors vous avez le sommet 4, évidemment dans n'importe quel automorphisme, ça doit rester sommet 4 parce que c'est le seul sommet à degré 3. Par contre, n, 2 et 3 sont symétriques, et donc ça c'est normal que vous pouvez faire n'importe quelle permutation. Vous voyez n, 2 et 3, il y en a 6, et donc le groupe d'automorphismes de ce graphe contient 6 permutations. Donc, je dis explicitement, les permutations qui gardent le graphe forment bien sûr un sous-groupe de Sn. Et la fonction qui, je peux définir la fonction qui envoie Sn dans les graphes sur un sommet, défini de telle façon que l'image de pi, de la permutation de pi, c'est pi de g. Donc j'ai mon g fixe et je définis cette fonction. Assez clair que cette fonction cache le groupe d'automorphisme de g qui est sous-groupe de Sn. Bon, maintenant, quel est le rapport entre isomorphisme et automorphisme? Je dis que deux graphes G1 et puis G2 sont isomorphes s'il existe une permutation telle que, ici, il y a une arête entre, disons que I et J, s'il y a seulement si, il y a une arête dans le deuxième graphe entre Pi et Pij. Donc ici, c'est les couleurs qui vous montrent la permutation. Donc par exemple, la couleur 5 va de E, de rouge, 7 va de D, c'est le bleu, et vous pouvez donc regarder que ces deux graphes sont isomorphes. Maintenant, comment, en général, si je vous donne deux graphes, comment vous réduisez la question s'ils sont isomorphes ou pas, un sous-groupe caché? À partir de G1, G2, supposons que c'est connexe, c'est une technicalité, sur un sommet, qui sont bien sûr distincts, je définis la graphe l'union des deux, donc G, c'est comme vous voyez ici, c'est mon graphe G. Et puis, réfléchissez un tout petit peu, quels sont les automorphismes de ce grand graphe? Ben, bien sûr, n'importe quel automorphisme d'un graphe, un des deux graphes, c'est un automorphisme de Gram, séparément. Mais s'ils ne sont pas isomorphes, il n'y a rien d'autre. Mais s'ils sont isomorphes, alors évidemment, un automorphisme, c'est justement un isomorphisme qui envoie, donc, comme on a vu ici, le 4 en C, puis 7 en D, etc. Ben, il est facile de voir que quand ils sont isomorphes, la moitié des isomorphismes sont comme ça, qui échangent V1 et V2, donc les deux ensembles de sommets, et puis l'autre moitié ne change pas. Et donc, une fois que vous avez trouvé un ensemble générateur pour l'automorphisme de G, vous regardez juste s'il y a un générateur qui échange les deux côtés, auquel cas ils sont isomorphes, sinon pas. Maintenant, c'est très bien. Est-ce que ça nous a aidé à trouver un algorithme quantique pour l'isomorphisme de graphe? Non, c'est la vérité que non. Il y a très peu de gens qui pensent que ça sera possible. Et puis, de toute façon, il ne faut pas résoudre le problème de sous-groupe caché pour les groupes symétriques pour vraiment résoudre l'isomorphisme de graphe. Et l'honnêteté nous fait mentionner ici un magnifique algorithme de Lotzi-Boboïdi il y a quelques années, qui est classique et qui met quasiment en temps polynomial ce problème. Pas tout à fait, mais presque. Alors, maintenant, j'arrive à mes deux groupes concrets qu'on regarde un tout petit peu. Le premier, c'est le groupe dihédral. Donc, le groupe dihédral, disons Dn, N c'est un entier positif, ce sont les isométries de Planck qui conservent un polygone régulier à un côté. Donc, ici, N égale 5, et vous avez donc en fait, les 10 symétries qui conservent, 10 isométries qui conservent le pentagone. Donc, les 5, ce sont des 5 rotations. Je peux aller de 0 à 1, 1, 2, 3, 4, rester sur place. Et puis, les 5 réflexions que vous voyez ici. Alors, une façon de représenter ce groupe, c'est je vais dénoter les n rotations par t, virgule, donc couple t0, où t, c'est un entier entre 0 et moins 1, et puis les réflexions par t1. Et l'opération de groupe TMBN multipliée par T de B2, les deux bits BNB2 juste, ce sont modulo 2, et puis le TNT2, c'est ou bien TN plus T2 ou bien TN moins T2 selon que le bit BN, c'était 0 ou 1. Donc c'est plus si c'est 0 ou 1, si c'est moins. Et alors je m'intéresse aux familles de ce groupe, il s'avère que, quoique c'est une famille spécifique, c'est aussi difficile que le problème général, où chaque sous-groupe dans cette famille HS contient juste deux éléments, donc l'élément neutre et puis une réflexion S, où donc S est n'importe quel entier entre 0 et n-1. Alors, quelles sont les cosettes droites? Vous voyez, tout n'est pas toujours à gauche. Pour changer, sont de la forme de T0 plus T plus S1, où donc T parcourt les éléments de groupe cyclique modulo n. Et donc, je vais dire, on en a parlé, que l'entrée de ce problème, c'est un état cosette aléatoire, c'est-à-dire pour un T aléatoire, on me donne ça et je peux demander plus, donc je peux demander autant de copies que je veuille, mais en fonction de ces états cosettes aléatoires, je voudrais retrouver le sous-groupe, donc S. Alors, je reviens au réseau. Alors, il s'avère que ce problème est vraiment très intéressant, beaucoup plus que l'isomorphisme de graphe pour les groupes symétriques pour l'isomorphisme de graphe, parce qu'on a des réductions, par exemple, de vecteurs plus proches, modulo n. Donc, ici, je prends un réseau modulaire pour un sous-groupe caché dans le groupe dihédral dn. Donc, j'essaie ici de vous donner un peu l'idée. Donc, supposons que le réseau est juste de dimension n, donc c'est la base. Mais par contre, le réseau est modulaire. Donc, vous voyez, donc, vous imaginez que vous avez ici quelque part une grosse carré n fois n. Et donc, quand vous sortez vos carrés, vous vous reprojetez modulo n dans l'intérieur des carrés. Et donc, l'entrée de ce problème de vecteur le plus proche, c'est que vous avez donc le vecteur qui génère le réseau, et puis il y a un point B qui est un certain multiple de ce vecteur A, S de A, c'est le S qui est inconnu, plus une petite erreur, donc l'erreur, vous voyez, c'est la distance entre le rouge et le noir, oops. Et puis, okay. Et puis, ce que vous voulez donc sortir, c'est c'est le point le plus proche du réseau, donc A, S fois A, qui est le plus proche du point rouge. Alors, comment résoudre ça? Donc, comment réduire l'élaborer le problème de groupe dièdral? Ben, l'idée, c'est de partitionner ZM en un carré, petit cube de côté L, où je vais expliquer quelles sont les conditions pour L. Donc, quand vous faites cette partition, je voudrais deux choses. Donc, une chose que je voudrais, c'est qu'il n'y a jamais deux points du réseau, donc jamais deux points noirs dans le même carré. Vous voyez, j'espère que c'est bien fait. Donc, vous n'avez pas deux noirs, d'ailleurs deux rouges non plus dans le même carré. Ça, c'est une chose. Par contre, ce que vous voyez, donc ça vous laisse a priori que le carré est vide ou il n'y a qu'un seul point. Carré est vide, ce n'est pas grave, on ne va pas le mesurer. Mais enfin, ce que je ne veux pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de carrés comme ça où il y a un point noir mais pas de rouge. Donc, je veux éviter ça, que ça arrive trop souvent. Donc, ça donne une borne, enfin une borne sur l'erreur. Et puis la taille de A, excusez-moi, ça donne une borne sur le côté L de ces petits cubes. Et puis une fois j'ai mes petits cubes, je définis une fonction phi qui, pour n'importe quel point de Zn puissance n, donne le cube qui contient ce point. Et alors vous pouvez créer l'état, c'est très facile, donc vous faites la somme sur le groupe cyclique module n de t, et puis vous calculez la valeur de cube, donc f de ta, t0, et ici, vous rajoutez aussi le b, donc le point rouge, ça parcourt le machin, donc le m fois n, et donc vous allez voir, évidemment, c'est le rouge aussi, se trouve autant de fois que le noir dans votre gros cube Zn puissance m. Alors, vous réécrivez juste, vous faites ici, vous remplacez t par t moins s, et vous allez voir que si, donc vous avez que E, donc le point noir, disons que ça, et le point rouge, le point noir et le point rouge qui lui correspondent, c'est ça, sont dans le même cube. Alors, si vous mesurez le deuxième registre et vous trouvez un tel cube, votre superposition se collapse à T0 plus T moins S fois N, et c'est exactement l'entrée pour le problème de groupe dièdral. Alors, très rapidement, le mieux qu'on connaît pour le groupe dièdral, c'est l'algorithme de Cooper-Herbert de 2003. Simplifiant la vie, pour grand n, je vais prendre 2 puissance petit n. Et son théorème est qu'on peut trouver le sous-groupe pas en temps quantique polynomial, mais en temps quantique 2 puissance ou de racine de n. Ce n'est pas polynomial, mais 2 puissance racine de n, c'est quand même beaucoup plus petit que 2 puissance n. Et alors, l'idée en grande ligne, donc le secret, c'est n bit binaire, S0, n moins n, S0. Je vous montre comment trouver S0, après vous faites des translations et vous trouvez les autres juste n fois. Alors, c'est mon entrée, t de 0 plus t plus Sn, où donc t c'est un aléatoire, modulo z puissance n. Je fais le transform des Fourier quantique et j'obtiens, je vais appeler ça l'étiquette, superposition 0 plus n, où le n a comme amplitude de racine 2 puissance nm élevé à s fois x, s c'est le secret, x est n'importe quel élément aléatoire. Alors, je serais extrêmement content si x était 2 puissance m moins 1. Pour regarder 2 puissance m moins 1, c'est selon s0, tous les autres ne comptent pas, seulement S0, c'est ou bien 0 plus 1 ou bien 0 moins 1. Je fais un Adamard là-dessus et je retrouve S0. Okay? Donc, si par hasard je tombe sur X qui est égal à 2 puissance 1 moins 1, j'ai tout de suite S0. Donc, la méthode de Cooper-Herbert, c'est comment, à partir des X aléatoires, obtenir 2 puissance 1 moins 1. Ce qu'on a, c'est que imaginez que vous avez deux superpositions comme ça, un pour x, donc l'étiquette x, l'autre pour y, vous pouvez les combiner comme produit tensoriel, vous avez ça. Vous faites une mesure de la parité des deux bits, et c'est facile de voir que ça s'effondre sur ou bien 0 plus, ça c'est l'étiquette ici pour x plus y, ou bien x moins y. Et donc, très abstraitement, on a le problème suivant, purement classique. Vous avez une boîte magique, vous appuyez le bouton, il vous donne un X aléatoire, modulo de puissance 1. L'autre, vous devez fournir comme entrée l'autre boîte, X et Y, et elle vous donne la boîte ou bien X plus Y, ou bien X moins Y, avec probabilité 1/2, 1/2. Je vais utiliser la deuxième boîte seulement dans ce cas. Je vais dire que la boîte... je veux dire, cette magie ne réussit pas si j'ai x plus y, par contre, je garde x moins y. Je n'ai pas dit, mais évidemment, une fois que vous avez obtenu l'un ou l'autre, x et y sont perdus, parce qu'on joue contre. Et maintenant, ce que dit Cooper-Berg, c'est que, supposons, pour simplifier, que n c'est k carré plus n, donc comment obtenir un k, en k pas, donc... 2 puissance 1 moins 1, ben je vais prendre K grandes boîtes maintenant, ce n'est pas des petites, qui vont faire de la chose suivante. Donc, quand je l'utilise de IM boîte, alors les entrées sont déjà telles que je divise mes n bits en K sections de longueur K. Et donc, dans les i moins une section, vers les bits les moins intéressantes, plus petites, il n'y a déjà que des zéros. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est que des zéros, vous faites une différence, un plus, peu importe, que des zéros vont rester. Est-ce que j'ai envie qu'après les sorties de boîte, ben, dans le im section, je n'ai aussi que des zéros. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, essentiellement, ben, j'échantillon, et puis... par exemple, si j'ai x égale y, ici, si dans la section i, x et y sont identiques, je mets dans la deuxième boîte magique, et si c'est le négatif qui sort, j'ai la bonne, ce que je veux, donc c'est 0 aussi. Et j'ai deux entrées, et il faut répéter ça en moyenne deux fois, donc pour quatre suites entrées, j'obtiens une suite bonne. Et donc, je veux que ça marche tout le temps. Je démarre avec à peu près 8 puissance K. En fait, 5 puissance K suffirait. Et puis, on peut montrer qu'après le passage de chaque boîte, j'obtiens toujours 8 puissance K moins 1, K moins 2. Donc, à la fin, encore suffisamment de séquences, telles qu'avec grande probabilité, j'ai aussi les 2 puissance moins 1. Je pense que je suis plus long que je ne pensais. Alors, sur les groupes dihédrogénéralisés, en réalité, ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est vraiment jusqu'au bout un groupe non abélien où on peut résoudre le problème de sous-groupe caché. Ben, probablement, je serai un peu coupé dans mes élans. Oui, c'est un problème rigolo, la transition cachée. Donc, vous avez deux fonctions injectives sur un groupe, F0, F1, qui possède une translation, disons cachée, ce qui veut dire juste que f de 0 de x, c'est la même chose que f de 1 de xs, ou x n'importe quel un des groupes, s, c'est la translation cachée, donc en image, vous voyez, c'est ça. Ettinger et Hoyer ont montré que résoudre le problème de translation cachée, donc trouver s, c'est la même chose que résoudre le problème de sous-groupe caché dans le groupe abélien, dans le groupe non abélien, qui est le produit semi-direct de G, qui est abélien, avec Z2. Et donc, voilà la définition abstraite pour n'importe quel groupe abélien. Vous faites de dihédrale, c'est vraiment une copie conforme de ce qu'on avait quand G était Zn. Voici l'opération de groupe. Et donc, ce que j'ai envie un tout petit peu de vous montrer, c'est que si le groupe c'est Zp puissance n, alors on peut trouver vraiment le sous-groupe caché. un temps polynomial à condition que P soit constante. Alors, vous voyez un tout petit peu le groupe d'Esdras, c'est Z capital N. Donc, P, c'est un grand N, le petit n, c'est un N. Et là, on peut ça faire. Ça, c'est un petit peu l'autre extrême où P, c'est constant. Je suis modulo 3, disons, mais par contre, j'ai N copie. Donc, quelque part, c'est plus facile que résoudre en ZN. Voilà. Alors, bon, je pense que je vais un tout petit peu raccourcir. Donc, écoutez, vous faites tout bêtement, c'est pour ça que ça marche, que c'est un peu idiot, dans le groupe, pas de vrai groupe pour produit semi-direct, mais comme si c'était un produit direct. C'est un groupe abélien, vous faites exactement l'échantillonnage de Fourier. Et donc, normalement, croyez-moi, vous faites, c'est évident. Et donc, normalement, vous vous souvenez, si je jouais char dans un groupe abélien, alors, S est caché, j'obtiendrai des Y, ce sont Y ici maintenant, les éléments de ZP puissance N, donc les vecteurs de longueur N, chaque composante c'est un entier mod P. Dans le cas abélien, j'aurais obtenu quelque chose qui est orthogonal à S, qui est marrant ici, c'est juste l'opposé. Je vais obtenir des Y qui sont tout sauf orthogonal. Donc, je peux obtenir n'importe quel Y qui n'est pas orthogonal à S, ce qui veut dire que le produit direct Y fois S, ça peut être 1 ou 2 ou P moins 1, mais pas 0. Et en fait, la probabilité de Y ne dépendra que de ce produit scalaire. Donc, pour tout Y, tel que Y fois S, disons que 3 mod P, c'est la même probabilité. Bon, une fois vous avez ça, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des inéquations modulo P, les inéquations linéaires, mais les inéquations ne sont pas graves. On peut les transformer en équations polynomiales. Pourquoi? Parce que vous avez un entier qui n'est pas 0 mod P, alors le P moins 1 puissance, c'est le théorème de Fermat, c'est 1. Et donc, je transfère mon problème d'inéquation mod P à des problèmes de système linéaire dans un espace plus grand, dans l'espace, disons, puissance symétrique de ZPN, c'est-à-dire quand je prends le P moins 1 puissance, ce sont les polynômes de AN variables qui sont homogènes et de degré P moins 1. Donc, il y en a, c'est le nombre des façons de choisir parmi un élément P moins 1 avec répétition. Et l'essentiel, que la dimension, vous voyez, c'est constante. C'est constante, pas constante, c'est N puissance P, c'est polynomial si P est constante. Et donc, étant donné un Y que je peux échantillonner, je vais associer à ce Y sa P moins 1 puissance dans cet espace qui n'est rien d'autre que le polynôme somme de YJ, XJ, X sont des inconnus, Y c'est ce que j'ai échantillonné, P moins 1 puissance. Et donc, si j'ai un Y tel que mod P, YS non 0, alors dans ce P puissance, j'ai cette inégalité que YP moins 1 puissance fois S, S que je cherche, qui n'est rien d'autre que Y fois S puissance P moins 1 égale 1, donc j'ai ça, cette égalité linéaire. Ou donc le S que je cherche, c'est un polynôme, donc dans la coordonnée, donc le coefficient dans ce polynôme, dans ce X puissance EI, le produit, c'est justement les correspondantes coordonnées dans S, le produit. Bon, j'ai l'impression que j'ai plus ou moins dépassé le temps que j'avais. Donc, l'idée vaguement. Donc, je vais obtenir en échantillonnant avec ce transfert un système linéaire dans le plus grand espace. Et bien sûr, ce qu'on espère, c'est qu'il y a une solution unique et puis aussi que je peux engendrer suffisamment d'éléments en temps polynomial. Bon, pour l'unicité, il y a une petite astuce, ça, c'est pas grave. Voici un exemple. Donc, vous voyez, donc, si tout est 3, donc P égale 3, N égale 3, je peux échantillonner, disons que ça, c'est mon vecteur caché, N de 0. Vous pouvez, par exemple, échantillonner 2, 0, N. Vous voyez, le produit scalaire, c'est 2 fois 2, c'est pas 0. Si je dénote par X2, c'est 0, 1, 0. Et puis, vous voyez, X1 carré, c'est le vecteur de longueur 6. Alors, cette inégalité en Z3 se passe en cette équation linéaire en Z6, si vous voulez. Donc, c'est la dimension 6 avec ces paramètres, l'espace des polynômes. Bon, je vous, ça c'est un lemme et je pense que je juste énonce pourquoi ça marche. Ça marche parce que si j'ai échantillonné un certain nombre de choses, donc ce sont des Y que j'ai obtenus par l'algorithme quantique, je considère leur P moins une puissance. OK? Et je regarde, ça fait un sous-espace de Z puissance P, de grand espace, mais c'est encore un vrai sous-espace. Alors, quelle est ma chance? Je termine quand j'ai tout le grand espace, n'est-ce pas, mon système de rang maximal. Et si ce n'est pas le cas, alors ce lemme dit que, ben, ma foi, dans ce cas-là, quand vous engendrez un nouveau Y dans votre algorithme quantique, la probabilité que c'est indépendant de ce que vous avez, ça c'est au moins 1 sur P. 1 sur P, c'est constante et donc ça va arriver et c'est pour ça vous obtenez la solution en temps polynomial. Bon, c'était ce que je voulais à peu près raconter. Vous vous souvenez, on a parlé un petit peu des groupes abéliens, surtout finis. On a vu un petit peu ce que ça signifie pour la cryptographie. En particulier, on a parlé des réseaux. Puis, ce qu'on savait sur les groupes non abéliens, pas énormément. Et puis, vous avez vu deux cas, le groupe dihédral ou une solution sous-exponentielle, si on peut dire, ça n'est pas polynomial. Et puis, ce groupe, ce qu'on appelle élémentaire abélien, ZP puissance NP constante, semi-direct Z2, où on pouvait parfaitement résoudre. Merci beaucoup.